CFM. Le sport. Tous les sports. CFM.
Allez, je vais essayer de faire du Jean-Claude Vigrousse du mieux que je peux. Je le remplace et on l'embrasse. Si je vous dis Monaco, Saint-Etienne, Paris, Marseille, vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose de bizarre ?
Lundi Sport, bonsoir. Salut Rémi. Est-ce que nos amis à Rodez sont connectés avec nous ? David Dumont, Jean-Claude Vigroux, bonjour.
Ouais, bonsoir, on est bien là.
Jean-Claude ?
Bonsoir à tous.
Salut. David Fabier est présent aussi ?
Il est là, il est présent.
Bon, salut.
Merci
d'être là. Est-ce que dans nos studios de Caylus, Jean-Claude Desfarges est présent lui aussi ?
Yes.
Salut Jean-Claude, ça va ?
Et vous ?
Ça va plutôt pas mal. Ici dans les studios à Montauban, à ma gauche, il y a Frédéric Foussat qui est allé supporter l'USM ce week-end. Ça va ?
Ouais, salut les gars, salut à tout le monde.
Et puis Jennings qui est allé supporter personne parce que ça a pas démarré l'handisport. Salut Jennings.
Bonjour Rémi, bonjour à toutes et à tous.
Mais bon, tu as maté le foot à la téloche.
Voilà.
Et tu as supporté encore une fois le PSG, donc on va pouvoir un peu se prendre le bec avec notre ami David Fabier, supporter de l'OM de l'autre côté. Hein, t'es prêt David ?
Ouais, je suis chaud patate, comme vendredi soir.
Ah oui, t'étais pas mal hein, au concert Rio Grande.
Alors parlons-en.
Bon, et ben messieurs, alors on commence immédiatement par les résultats du week-end avec vous. C'est de votre côté que ça se passe, en foot ?
Ouais, avec la Ligue 1, et Jean-Claude Vigroux.
Allez, Jean-Claude Vigroux.
Ben oui, on jouait la 8e journée du championnat de Ligue 1, et en tête de classement, on retrouve les trois riches. Monaco, avec 18 points, et égalité avec le Paris Saint-Germain, et Marseille, qui suit avec 13 points. Pour ce qui est des résultats, samedi se déroulait le match Lorient-Marseille. Les Marseillais ont remporté la victoire 2-0 en deuxième mi-temps grâce à un magnifique coup franc de Valbuena, et un non moins beau but de André Ayou. Donc 2-0 pour les Marseillais, cocorico pour Marseille. Le Paris Saint-Germain, lui, on dit qu'il a battu Toulouse 2-0 pour moi, et il a battu personne. Pour moi, le score logique était de 1 but partout, puisqu'on a accordé un pénalty gracieusement offert par monsieur l'arbitre aux Parisiens sur un tacle tout à fait correct et tout à fait normal de Spajic sur Cavani qui a su bien se prendre les pieds dans le tapis et s'étaler de tout son long. Donc les Parisiens ont marqué sur cette action-là. Et par contre, on a refusé aux Toulousains un but valable de Ben Yedder. Il est vrai que Regatin était en position de hors-jeu, mais il ne faisait pas action de but. Et Ben Yedder a magnifiquement trompé le gardien Sirigu, le gardien parisien, et monsieur l'arbitre l'a refusé. Alors je ne comprends pas, il y a deux règlements en France. Puisque dans la même action, au cours du match Rennes-Nantes, Nantais se trouvait en position de hors-jeu, a fait action de jeu, mais s'est arrêté assez tôt pour laisser la balle à son partenaire. Il y a eu but, l'arbitre de touche a levé son drapeau pour signaler le hors-jeu, et monsieur l'arbitre a accordé le but. Alors, je comprends plus, il va falloir qu'on fasse des stages de recyclage pour les arbitres, parce qu'il y a deux interprétations différentes du règlement. Mais ça n'empêche pas Monaco d'être en tête devant le Paris Saint-Germain et Marseille. Lille revient bien après son nul à Lyon, où Lyon là est en train de patauger dans la semoule sérieusement. Et Montpellier, le petit régional, est allé faire un match nul à Ajaccio sur le score de 1-0.
Jennings voulait réagir à ce que tu viens de dire, Jean-Claude.
Ouais, ben... Je suis tout à fait d'accord avec toi, Jean-Claude, sur le...
Intérêt, hein.
Enfin, allez, à moitié, on va dire, sur le match du PSG, c'est sûr que, au niveau de l'arbitrage et les arbitres, ils sont toujours aussi nuls, faut le dire. Franchement, il faudra qu'ils se posent un jour la question, au niveau de la fédération, parce que là, franchement, c'est vraiment inquiétant le niveau par rapport aux autres, pays européens. Après, le penalty, c'est sûr qu'il y est pas. Super tacle de Spajic. Mmh. Et par contre, le but de Ben Yedder, Regatin, c'est vrai qu'il fait pas action de jeu parce que bon, il va pas vers le ballon. Mais étant donné que déjà il est en position de hors-jeu et en plus qu'il est devant Sirigu et qu'il gêne Sirigu au moment de la frappe, pour moi il empêche quand même Sirigu voilà de voir le ballon partir et du coup pour moi il y a hors-jeu.
Ouais, pourquoi l'arbitre de touche n'a pas levé son drapeau et sur l'action Regaten ne fait pas action de jeu et ne gêne pas du tout Sirigu puisque Ben Yedder a fait un écart sur le côté gauche pour frapper, pour envelopper sa balle et la mettre magnifiquement au ras du poteau. Hein.
Ah oui, alors au niveau de la frappe de Ben Yedder,
il n'y a pas hors-jeu là. Mais lors de l'autre match Rennes-Nantes, l'arbitre de touche là lève le drapeau et l'arbitre du centre accorde le but.
Voilà, là pour moi par contre le but aurait dû être refusé parce que on voit le joueur nantais, je sais plus qui c'est, qui va vers le ballon. Et il y a Lucado qui lui continue son action parce que lui voit son coéquipier s'arrêter. Mais comme le joueur nantais qui est hors jeu continue sa course malgré tout, normalement l'arbitre doit revenir à ce hors jeu là parce que Costil sort de sa surface exprès pour dégager très vite pour peut-être
les Rennais égaliser. Ça va pas prendre le chèque à la fin du match. Hein.
C'est un peu logique parce que d'un côté il y avait les Qataris et l'autre côté il y avait les Canaris.
Oh quel jeu de mots magnifique.
Il est fort.
Ah ça.
Bon, d'autres choses avant qu'on passe à la suite.
Ben non, à part qui Valenciennes, lui, s'enfonce de plus en plus dans le classement. Les Socholiens, qui étaient à leur niveau, ont réussi à rapporter leur première victoire sur leur terrain par 2-0, ce qui enfonce de plus en plus l'équipe de Valenciennes. Les Ch'tis, il va falloir se bouger bientôt.
Ouais, je crois que là, les pauvres Valenciennois, je pense que... À part jouer le maintien cette année, ils pourront pas faire grand chose, quoi.
Franchement, c'est très faible. Les patates cuites, quoi.
Avec les départs de nombreux joueurs, c'est très faible. Ouais.
Et il y avait j'allais dire l'USM, n'importe quoi. Le Marseille jouait pas?
Si, ils ont gagné. Si,
mais ils ont gagné. Je l'ai dit en début. Il faut être attentif.
Non, mais c'est parce que comme j'entends pas David Fabier, ça a dû être un match pourri. Non. Il veut pas en parler. J'en sais rien.
Je parlerai lundi prochain puisque je serai au Classico qui aura lieu ce week-end. Ah. Alors, on anticipe un petit peu l'agenda, mais ce week-end il y a le Classico, il y a Marseille-Paris, et donc je serai un peu plus explicite, on va dire, lundi prochain. Là, pour l'instant, je ne fais que savourer cette victoire petitement 2-0, et je ne jubile pas. Tu remarqueras.
C'est ça. Mais t'as raison de savourer. Parce que dimanche prochain, à mon avis,
tu vas prendre.
Ça va faire glou-glou, je pense, les Marseillais.
On en reparle. Il n'y a pas de souci, on en reparlera avec grand plaisir.
Et dites-moi, les gars, qu'est-ce que vous pensez un petit peu du geste de Zlatan Ibrahimovic là ?
Ibrahimovic. Qu'est-ce qu'il a fait ?
Parce que c'est lui qui avait chargé le défenseur de Toulouse à 5 minutes avant que l'action se passe. Il l'a chargé dans le dos. L'autre n'a rien dit, n'a pas. Et il lui a bien rendu, alors que l'arbitre tournait le dos, l'arbitre n'a absolument rien vu. Mais alors là, il nous a fait un cinéma. Il a même été insulté le banc de touche au Toulousain. Heureusement que Zébina est resté bien tranquille sur son banc de touche. S'ils se connaissent, vous savez, Zébina et Ibrahimovic ont joué dans le même club. Hein.
Ils se foutaient des baffes d'ailleurs à l'époque.
Hein. Peut-être qu'ils se mettaient des tartes, oui. Mais c'est pas très élégant, hein.
Non, c'est du Zlatan.
Il est pas élégant, ce garçon. Ouais. Ça, c'est sûr.
Oui, mais il n'y a pas de quoi à polémiquer non plus sur ça, quoi. On connaît le caractère de Ibra.
Ça fait un peu partie de ce qu'on trouve dans le football actuellement, hein.
En fait, c'est une Zlatanade, hein, dans les coutumiers du féminin.
C'est celui qui a la plus grande gueule qui gagne, quoi, hein.
C'est un peu ça, ouais.
Allez, la suite de lundi sport après, ça.
Après Boulevard Désert, c'est pour David qui me l'a demandé parce qu'il a passé un super week-end à Montauban.
Exactement.
Je voulais placer le mot ruelle. Je voulais vous parler un peu d'elle. Je voulais écrire sur un bout de table dans un salon de la rue des Arts et déchirer ce bout de nappe sous le regard de bande à part et en finir avec l'ambition, cracher bourré mes convictions. Et je voulais vous parler des femmes et de Godard, de leur parfum de 68 que l'on condamne du mois d'octobre 61. Et je voulais vous parler des femmes et de Godard, de leur parfum de 68 que l'on condamne du mois d'octobre 61. Mais on ne fait pas les Amériques en écrivant ce genre de choses. Fallait choisir la chose publique, y'a peu de public à la prose. Et entre nous, mon choix est fait, Et entre nous mon choix est fait. Et jamais je ne choisirai entre la bannière et la rose. Et je voulais vous parler des femmes et de Godard, de leur parfum, de 68 que l'on condamne, du mois d'octobre 61. Et je voulais vous parler des femmes et de Godard, de leur parfum, de 68 que l'on condamne, du mois d'octobre 61. Je voulais vous parler de la misère, je voulais vous parler de la folie, d'un traitement sécuritaire, de pardon et de lobby, esclaves et aliénés, de la cause à la déraison, attendant quelque chose qui ne produira pourtant jamais. Et je voulais vous parler des femmes et de Godard, de leur parfum, de 68 que l'on condamne, du mois d'octobre 61. Et je voulais vous parler des femmes et de Godard, de leur parfum, de 68 que l'on condamne, du mois d'octobre 61. Et je voulais vous parler des femmes. Et je voulais vous parler des femmes. Et je voulais vous parler des femmes.
Boulevard désert, je voulais vous parler des femmes, mais c'est David qui va vous parler des femmes maintenant.
Alors maintenant, si on aime le rugby, il va falloir manger à l'heure espagnole, moi je vous le dis. Parce que quand on programme des matchs à 12h30, soit on a mangé comme des poules à 10h du matin, ou on a brunché à la limite, on a brunché et on va au match, soit on va voir le match et on est obligé d'attendre 14h pour commencer l'apéro et puis ensuite manger à 15h, à 16h.
Tu manges au clubhouse.
Ouais, mais enfin ça fait tard après le match quand même, tu vois.
Non, tu manges... juste après le match au clubhouse.
Mais juste après le match, ça fait quoi? Si ton match il démarre à 12h30, deux fois 40 minutes plus 45 minutes, bon, tu manges à 14h30 quoi. Mais 14h30, moi j'ai faim.
En Italie, ils le font en Serie A.
Ouais.
Des matchs quelquefois à 12h30 aussi, pareil. Voire même midi.
Eh ben, c'était un match test. Il va nous en parler, Jean-Claude Desfarges. Allô, Jean-Claude, c'est à toi. Il est parti. Ah. Bah alors, il est là ou bien?
Nous avons perdu.
Il était parti bouffer.
Ouais, ou alors il est sur sa planète.
C'est ça, il est parti bouffer.
Non, mais c'est vrai que ça pose la question du calendrier en fait de Canal+. C'est vrai que je pense qu'ils veulent intercaler un nouveau horaire pour un match de rugby durant le week-end.
Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, 12h30, c'est bien?
Ben, je pense que malheureusement, c'est un petit peu les impératifs économiques d'une chaîne, quoi, qui fait quand même vivre ce sport et qui est un peu ses contraintes à elle.
Qu'est-ce qu'ils en pensent, les supporters qui... Toi, si par exemple l'USM jouait à 12h30, qu'est-ce que tu irais
Ben, disons que...
En tant que supporter.
Le dimanche, je pense que pour les familles, les parents, etc., c'est un peu moins embêtant. Le samedi, c'est vraiment embêtant parce que les papas amènent les enfants. Il y a les matchs l'après-midi, etc. C'est toujours embêtant le samedi après-midi. Le dimanche, à 12h30, écoute, on verra bien les affluences dans les stades. Hein. De toute façon, ça sera par rapport à ça où les clubs aussi diront, bon, écoutez, cet horaire, ça ne nous convient pas du tout. C'est juste une expérience. Je pense qu'il faut le voir comme ça. Voilà.
Est-ce qu'il est arrivé parmi nous, Jean-Claude Desfarges? On a vraiment des petits problèmes de liaison avec le studio de... c'est tous les lundis qu'on a un problème avec Jean-Claude Desfarges et le studio de Caylus. Là, ça va pas du tout, cette histoire.
Le problème, c'est Jean-Claude Desfarges, je crois.
C'est ça. Je crois que c'est lui. Hein, depuis,
comme ça, de visionner les rushs de son film.
Il a pris la grosse tête depuis qu'il fait du cinéma.
Et voilà, je vous le dis, oui.
C'est ça. Hein, et du coup, il passe plus dans les tuyaux.
Maison, là.
Il passe plus dans les tuyaux avec la grosse tête.
Ben, je pense que, moi, j'ai pas les résultats là sous les yeux. C'est vrai que bon, moi, j'ai vu Stade Français Montpellier, deux belles équipes qui ont quand même des joueurs français qui jouent dans leur sein. C'est pas le cas de toutes les équipes, je pense notamment à Toulon. J'ai vu un beau match, un peu le renouveau de cette équipe du Stade français autour de joueurs cadres, Rabadan, le demi de mêlée, il y a Papé, enfin bon, c'est vrai qu'il y a des joueurs cadres et ils ont construit aussi des joueurs qui sont sortis du club, des jeunes joueurs, je pense à Plisson, le jeune 10. En France, on attend un 10 en passant de Michel, etc. On a peut-être un petit jeune. Et puis Montpellier, c'est un peu pareil. Il y a pas mal de... Très beau match, franchement.
T'as suivi, toi, aussi, le rugby, Jennings, ou pas?
Oui, j'ai suivi aussi, ouais.
Ouais.
Et puis, il y a surtout, moi, c'est à pleurer. Enfin, moi, ça m'a rappelé notre épopée en top 14 de Montauban, Oyonnax qui fait tomber Toulon, quoi.
Ah, ça, c'est la grosse surprise.
Avait 800, ouais. Tu te rends compte, c'est une équipe sur le terrain, la feuille de match, ils ont 850 sélections. Dans les 15 joueurs, il y en a, voilà, ils ont 800. Alors, l'Angleterre, avec Wilkinson, etc., les Williams, enfin, voilà. Et il y en a un peu comme nous, quoi, Charles Maton, ils les ont fait tomber. Un match magnifique. Franchement, ça m'a rappelé plein de matchs références qu'on a vu dans notre cuvette. Et vraiment, franchement, bravo, il y en a, franchement.
Oyonnax ou Oyonnax, on peut dire les deux, ou
Oyonnax, je crois.
Oyonnax.
Ouais, enfin, moi je dis Oyonnax.
9 millions d'euros seulement.
Allô, Jean-Claude, non? Ah non, c'est Jean-Claude.
Non, c'est Jean-Claude, mais c'est pas le même.
Ah
hein.
Oui, vas-y Jean-Claude, on t'entendait pas, Jean-Claude Vigroux, vas-y, dis.
C'est Jean-Claude réveillé ici.
Oui, tu disais 9 millions d'euros, quoi?
Ben oui, il y a 15 millions d'euros d'écart de budget. Je comprends pas que les mecs se bougent pas un peu plus sur le terrain, moi. Je serais Ben Jelal, là, je leur ferais bouffer la pelouse. Hein.
Bouger, oh, mais non, mais je pense qu'ils sont tombés. Et, tu sais, les rugueux, il ne suffit pas le pognon ne fait pas le côté rugueux du garçon. De toute façon, Toulon l'a bien vu.
De toute façon, vous le verrez déjà la semaine prochaine. Hein.
Ouais.
Pourquoi, David?
Lors du Classico, vous allez voir Marseille qui va foutre une peignée au Paris Saint-Germain, alors que le Paris Saint-Germain a une pognon, on va pas savoir comme foutre, et que nous on en a pas, mais on va leur foutre une peignée quand même, n'est-ce pas, Jennings?
Ah, de toute façon, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de surprises, et déjà qu'au rugby, c'est vrai que des petites équipes qui battent des grosses, c'est plus rare déjà. Mais c'est ce qu'il y a de plus beau dans le sport, c'est des petites équipes qui arrivent à battre des grosses. Et c'est pas parce qu'un club a un budget plus important qu'un autre que ce petit club-là ne peut pas.
Oui, mais ils peuvent s'acheter des joueurs de notre niveau quand même. Attention, il y a une structure qui est différente.
Ah oui, non mais ça c'est sûr.
Non, mais après il y a une question d'ami, je pense. Il y a une question d'ami aussi. Oyonnax, de toute façon, on sait que pour gagner, enfin pour arriver à se maintenir en top 14, ils doivent jouer tous les matchs à la maison. Ils doivent se battre comme des chiens, ce qu'ils font très bien depuis le début de saison. Et puis voilà, en plus quand tu reçois Toulon, t'as une putain d'orgueil qui se met en place et t'as envie de les bouffer, les mecs. C'est comme quand Paris se déplace sur des terrains comme Reims, comme Guingamp. C'est le choc de ton championnat, que ce soit en football ou en rugby. Mm-hmm. Quand tu reçois la grosse équipe, t'as envie de les bouiller, les mecs. Et forcément, les mecs se donnent à 300%. C'est une question d'envie, c'est pas une question de pognon. Le pognon fait pas tout. D'avoir beaucoup d'argent, c'est super parce que tu peux faire devenir de très bons joueurs. Mm. Mais par contre, dis-toi que t'as ta nuit tous les dimanches ou tous les samedis sur les pelouses. Quoi.
Comme ça, disait un entraîneur sur un terrain, non, mais ton homme, il a deux jambes comme l'autre et tout. Mais c'est l'envie. C'est celui qui a envie de jouer et celui qui veut se regarder jouer.
Mais Johnny le disait très bien, hein, comme donne l'envie d'avoir envie. Ok, je sors.
Stéphane, ah, Jean-Claude, ça y est, t'es revenu.
Ouais.
Ah ben dis donc.
Ben attends, il faut raccorder les fils.
C'était pas facile. Moi je disais que t'avais la grosse tête, du coup tu passais plus dans les tuyaux depuis que tu faisais du cinéma.
Non, mais vous avez parlé du top 14 là.
Un petit peu, oui, quand même.
Vous avez pas parlé de la crise qui se passe à Biarritz en ce moment où Blanco est au bord de la démission.
Au bord des larmes, au bord de tout.
Oui. Et au bord de la rivière, Margot.
Au bord de la Dour, il est.
Je voudrais quand même vous parler d'une équipe qui a l'envie en ce moment, qui s'est arrachée sur le terrain en mettant, comme on dirait certains, les couilles par terre. C'est l'équipe d'Albi qui a battu pour sa survie l'équipe de Colomiers. Et moi, j'étais Albi pour ce grand match parce que Albi n'avait zéro victoire depuis le début de la saison. Et j'ai fait l'interview du numéro 8 de Colomiers, qui était l'ancien capitaine d'Albi, et du président d'Albi, Monsieur Castanet, qui était au bord des larmes après le match. Je vous l'envoie.
Allez, c'est parti.
Pitener, ex-Albigeois, maintenant joueur de Colomiers, pas trop dur de revenir chez la maison?
Ouais, c'était l'heure. Il fallait revenir, il fallait jouer contre Albi. Voilà, aujourd'hui Albi a gagné. Voilà, on n'a pas su maîtriser la fin du match. Voilà, tant mieux pour mes ex-copains. Qui sont toujours mes copains d'ailleurs.
Oui, on l'a vu. Et quand même Colomiers, belle saison, début de saison.
Ben belle, voilà, cette victoire nous aurait fait du bien. Là, on voit qu'il nous manque, quelque chose pour arriver à stabiliser le club. Mais là où on aimerait être, pour l'instant, on n'y est pas.
Bon, ben écoute, bonne continuation. Mais je suis avec Monsieur Castanet, président du Sporting Club Liégeois. Enfin.
Enfin, une victoire. Ça a été dur, très très difficile. Bon, avec un arbitrage un peu compliqué quand même. Mais on a mis tout ce qu'on avait, avec en plus tous ces jeunes qu'on avait sur le terrain. C'est extraordinaire et on a vraiment eu beaucoup d'envie et super.
Je peux vous dire que vous avez une première ligne à Albi extraordinaire.
Mais c'est que des jeunes, avec une équipe avec 22 ans de moyenne d'âge, aujourd'hui même pas, donc...
Mais alors, vraiment, ils ont fait un match...
Ils ont fait un match super.
Tonnerre de Dieu, ils ont tenu la baraque
d'avoir... Là, on est content.
18 points de pénalité grâce à la première ligne. Bon alors, et c'est le début.
C'est le début, j'espère.
C'est le début de la suite. Plus, alors, bravo, puis à bientôt pour la prochaine victoire.
Ouais, j'ai vu un président albigeois au bord des larmes. Parce que la victoire était dure à faire. Alors, j'aurais vous citer deux joueurs. Ils s'appellent Maxime Gau et Bastien De Dieu. On va en entendre parler bientôt en top 14.
Jean-Claude, dis-moi, tu vas certainement m'engueuler, mais est-ce que c'est toujours Broncan, l'entraîneur d'Albi?
Oui, c'est Monsieur Broncan, malgré sa crise cardiaque, qui joue, il entraîne toujours avec Desten. Il est épaulé de Baka, que tu connais peut-être.
Ouais.
Et à tous les deux, ils ont eu un début de saison albigeois où ils ont reçu Lyon, ils se sont tapés La Rochelle, ils sont allés à Pau, ils sont allés à Tarbes, ouais, et là, ils recevaient Colomiers. C'est-à-dire, ils avaient les quatre premiers de la Pro D2 d'entrée, et ils savaient que ça serait très dur pour eux. En plus, ils ont plus d'arrière, ils ont plus de demi d'ouverture qui ont eu des blessures. Et vu qu'ils ont pas de sous, ils ont fait comme ils pouvaient. Les deux demi-mêlées sont une lâche arrière. Et en arrière, l'arrière avait 18 ans et demi. Et donc, ils sont partis avec une équipe de jeunes, et ils ont foutu le bazar à Colomiers pendant tout le match. Et les Columérins, ils ont pu regarder les Albigeois, leur rentrer dedans. Et sur 12 mêlées, Albi les a mis 9 fois sur le cul.
Bravo, monsieur Broncan.
Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les castrés, dans tout ça?
Alors, je reprends le...
Non, mais
alors,
très, très rapidement, parce qu'il faut qu'on enchaîne. C'est pas pour rien que je parle des castrés, tu sais pourquoi.
Ils ont battu le Racing et ses deux entraîneurs, parce que tu dois avoir Stéphanie Madol pas loin.
Alors voilà, je te demande de nous la présenter, s'il te plaît.
Alors Stéphanie Madol, c'est une passionnée de rugby, c'est aussi une artiste photographe qui fait actuellement une expo sur les joueurs de rugby dans un but caritatif. Et aussi c'est une personne qui est très attachée au rugby féminin puisqu'elle a monté un site de défense du rugby féminin, mais je crois qu'elle va nous en parler mieux que moi.
Non, bon, alors, écoute, apparemment on n'a pas vu Stéphanie.
Elle n'est pas là Stéphanie? Allô?
Oui, tu m'entends? C'est Jean-Claude.
Jean-Claude, oui, je t'entends, mais j'ai pas de Stéphanie Madol au téléphone. On l'a perdue en cours de route. Décidément, on a des petits problèmes de liaison en ce moment.
Donc, ouais, Stéphanie Madol, elle fait une expo sur les joueurs de rugby, entre autres. Hein, c'est une fille qui a joué à Castres, à la région Castres.
Oui, on l'a perdue là, décidément. Allô?
Allô?
Ah, Stéphanie Madol, on vous a eu, on vous avait perdu, dites donc. Ça va ou bien?
Oui, très bien.
Ça vous vient d'où votre passion du rugby à vous?
Oh, et bien depuis maintenant 6 ans, c'est un sport qui m'a plu et depuis, eh ben, je m'y attelle. J'arrive pas à m'en défaire et j'y reste et ça me convient très bien. Voilà.
Bah, et comment vous êtes tombé là-dedans?
Et tout bêtement, en étant proche d'un club, puisqu'il y avait, au niveau familial, ma sœur était dans le rugby et petit à petit, j'y suis plongée là-dedans. J'ai monté une équipe et puis j'ai commencé à jouer et puis je me suis amourachée. J'ai enclenché sur la promotion du rugby féminin au niveau national pour faire entendre ces dames dans le rugby. Et puis voilà, et après, ça m'est suivi quelques projets comme du style m'occuper de la communication de certains clubs, faire entendre le rugby et ses valeurs. Et voilà, et maintenant ça continue au fur et à mesure.
Moi je suis toujours espanté des femmes qui jouent au rugby parce qu'il y a quand même un aspect violent quoi. Quand je vous vois vous plaquer ou vous rentrer dedans dans les mêlées, moi c'est...
Oh mais c'est comme les hommes, hein. Il y a une partie technique, on apprend, on progresse au fur et à mesure, on met en place un sport, un jeu à l'identique comme les garçons, et puis sauf que c'est effectivement, on est plus dans l'évitement, c'est pas comparable, mais c'est quand même un sport comme tout autre, et les femmes, ils trouvent très bien leur place dans ce monde-là, voilà, c'est... Tout comme le rugby masculin, il y a des impacts chez les filles. Il y a aussi des impacts parce que les filles ne jouent pas au billet, hein, quand on s'implique, on s'engage et le but quand on rentre sur un terrain, c'est pour gagner, partager, prendre plaisir avec les coéquipières et le but c'est d'arriver à la gagne.
Hein. Stéphanie, voilà. C'est Jean-Claude Desfarges. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Claude Desfarges, ça va? Quel poste tu jouais toi?
J'étais trois carrés.
Ah, ben ouais.
Voilà. Voilà.
Parce que, écoute, j'ai vu la photo sur Facebook, puisqu'on communique, et une belle fille comme toi qui joue au rugby, quand même, trois carrels, ça va, t'as pas pris trop de coups, quand même.
Non, ça va, mais je jouais quand même devant quand je jouais à 7. Voilà, et puis, non, on prend pas des coups, on les évite. Le but, c'est pas de... Je veux dire, on les évite devant aussi, et quand on prend les impacts, on fait attention. Comme vous, les garçons, hein, c'est pareil, hein, je veux dire, voilà, hein, c'est...
T'étais du style Berdatsal ou t'étais du style Nalaga?
J'étais du style moi-même, c'est-à-dire que une acharnée sur un terrain, mais avec un seul objectif, la gagner. Voilà, je suis assez compétitrice, donc je fonce. Voilà.
Et le club, c'était quoi, Stéphanie?
Comment?
Et ton club, c'était quoi? J'ai pas entendu.
J'ai pas entendu non plus, pardon.
Ton club, c'était quoi? Il s'appelait?
Alors, j'ai commencé au rugby club Revellois pendant deux petites années. On a mis en place une équipe à 7. On a évolué, on a pu s'y mettre en championnat et ensuite j'ai eu la chance de participer, enfin de rester une paire d'années aux 4 rugby féminin, voilà, où on a eu été championne en 2011 en fédéral 2.
Alors parlez-moi de cette expo profil là qui est consacrée à des sportifs. De quoi s'agit-il?
Alors voilà, comme j'avais exercé la promotion du rugby féminin au niveau national, c'est-à-dire faire entendre les femmes partout en France, au niveau visuel, les photos, les expositions, j'ai rebasculé un petit peu dans le monde d'hommes où j'ai sélectionné à peu près 25 sportifs qui étaient connus et inconnus. Le tout relié par une vraie passion qui est le sport. Et l'intérêt, c'était de mettre autant en avant les sportifs qui étaient inconnus et de les mettre sur un même piédestal avec mes confrères, par exemple du Castres Olympique, qui fut champion cette année au Castres Olympique. Et donc, c'était de les mettre tous sur un même piédestal. Voilà, donc c'était voilà un jeu de mots, un jeu de photos, une expo qui a bien pris, qui est au théâtre de Castres municipal actuellement, jusqu'au 12 octobre d'ailleurs, c'est une entrée libre. Et le tout, c'est de récolter des fonds pour une association qui s'appelle Tout le monde chante contre le cancer. Donc voilà, c'était un vrai plaisir. Et la petite anecdote a été que je me suis retrouvée quasiment avec 25 champions, vu les titres récents entre l'Aviron Castré et le Castres Olympique. Voilà.
Et voilà, et donc c'est à voir au théâtre de Castres pendant combien de temps?
Jusqu'au 12 octobre, là, à peu près pendant un mois et demi.
D'accord. Voilà. Et voilà, et on le redit au profit de Tous Ensemble contre le cancer. Merci Stéphanie Madol d'avoir été avec nous.
Merci.
À bientôt. Au revoir. La suite de lundi sport sans aucun problème technique. Après l'info locale, on continue avec notamment un reportage in situ à l'USM, mais aussi du côté de Rodez. Hein.
Ouais, allez, ouais.
À tout de suite.
Samedi soir, face à Andal.
CFM. CFM.
Il est 18h. Réduisez votre facture énergétique et privilégiez votre confort avec les Maîtres du Feu. Avenue Chamier à Montauban. Les Maîtres du Feu, offrez-vous l'excellence.
CFM. Toute l'info Nord-Midi-Pyrénées.
Bonsoir, bonsoir à tous. Un lundi montalbanais pour Martin Malvy, le président de la région Midi-Pyrénées, se déplace en Tarn-et-Garonne en ce début de semaine pour évoquer le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire, mais aussi pour inaugurer le nouveau bâtiment de l'IUP Arts Appliqués et enfin la signature du contrat de site enseignement supérieur et recherche de Montauban. Bientôt 30 ans pour la CDI 2F de Tarn-et-Garonne, le centre d'information départementale sur les droits des femmes et des familles, un anniversaire qui se tiendra dans le milieu de la semaine prochaine à l'auditorium du centre universitaire de Montauban. Le CDI 2F gérera notamment les hébergements d'urgence pour les victimes de violences conjugales. Les travaux interrompus à Moissac, 3 jours après avoir commencé. Travaux de rénovation de la rue Guilleran, du parvis de l'Abbatiale à la rue de l'Abbaye. Arrêt des pelles mécaniques dues à une découverte à 40 cm sous terre, un morceau de mur. Des fouilles archéologiques sont en cours non loin du Patus. Plusieurs découvertes ont déjà été faites dans les environs. Le conseil municipal table pour une fin de travaux le 7 décembre prochain. On passe au sport et au rugby avec la 3e journée de Fédéral 2 qui s'est disputée ce week-end. Le Racing Club Montauban a connu un coup d'arrêt samedi en s'inclinant à Libourne 19-13 pour les Girondins. Mais reste à la 3e place au classement de la poule. Libourne, de son côté, est toujours leader. Et du côté de Castelsarrasin, le CAC a signé un bon match nul face à Bergerac, 2e du classement hier. Les Castelsarrasinois sont 6e et dans 2 semaines, le RC Montauban recevra Bergerac et le CAC se déplacera à Sarlat. Et enfin, du football pour finir, on jouait le quatrième tour de la Coupe de France ce week-end avec un bilan mi-figue, mi-raisin pour les clubs tarnais-garonnais engagés. Si l'entente Golfex Saint-Paul-d'Espy a dominé l'AS Ramonville 2-1 samedi, en revanche, il n'y a pas eu de miracle pour Montauban. Des Montalbanais qui recevaient Rodez Aveyron Football, club qui joue à 3 divisions au-dessus. Les Aveyronnais se sont imposés 2-0 à l'issue des prolongations. Grisol s'est incliné à domicile face à Albi, club de CFA 2, 4-2. Très bonne fin de journée à vous sur CFM.
Le sport, tous les sports, CFM.
Allez, je vais essayer de faire du Jean-Claude Vigrousse du mieux que je peux, je le remplace et on l'embrasse. Si je vous dis Monaco, Saint-Etienne, Paris, Marseille, vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose de bizarre ?
Allez, on reprend cette édition de lundi sport avec des résultats locaux et régionaux. Alors, on va passer en revue hein, la Coupe de France. Il va y avoir du foot féminin aussi parce que oui, il suit ça la vie David Dumont, le foot féminin. On va parler du côté handisport avec Jennings
du basket fauteuil.
Du basket fauteuil, voilà. Pour le moment, les championnats sont toujours pas engagés, donc il y aura pas de résultats, mais tu nous en parleras. Et puis on va aussi avoir des reportages in situ du côté des matchs de rugby. On s'intéressera ensuite à la ruée des Fadas. C'est spécial dédicace à David Fabier, ça, hein, qu'on appelle aussi Fada. La ruée des Fadas, c'est une course un peu débile, une course d'obstacles qui va se dérouler en juin à Montpellier, mais on vous en parle dès maintenant pour que vous puissiez vous inscrire. Bah oui, voilà, hein, on fait ça. Par contre, on commence, David.
On va commencer par le football.
Allez.
Et la Coupe de France, c'était un week-end de coupe et on avait notamment parmi les rencontres, eh bien un nouveau duel entre Montauban et Rodez après le rugby il y a une quinzaine de jours et la victoire de Montauban ce coup-ci, c'était à Montauban d'abord qui accueillait Rodez, 3 divisions d'écart entre les deux équipes, mais ça s'est pas vu tant que ça sur le terrain puisque ça a été très très long à se décanter pour le Rodez Aveyron Football qui s'est finalement imposé.
Grâce à Mansour Boutabou, pendant les prolongations, 2 buts de Mansour Boutabou, il était temps qu'on arrive au bout, et les Rétinois se sont qualifiés pour le prochain tour de Coupe de France, mais on avait aussi les féminines, les Rafettes qui recevaient Enem Beaumont, les Ch'tis du Nord se sont déplacés au stade Vigne, à Georges Vigne, à Honnay-le-Château, et les Rutinoises et l'équipe de Enem Beaumont se sont quittées sur un score de 1-1. Va-t-on voir avec l'entraîneur Nicolas Bach s'il est satisfait de ce résultat?
Ah, il n'était pas satisfait du tout, on va l'entendre, Nicolas Bach.
Non, c'est une lourde déception encore, hein, parce qu'en première mi-temps, on doit revenir avec un avantage au score. On a des grosses situations, on tape la barre, on a plein de situations intéressantes avec des décalages où on fait pas les bons choix. Dans la dernière passe, on fait pas les bons choix. Et il nous manque cet aspect un peu tueuse là devant le but. On n'est pas assez tueuse. On doit avoir envie d'envoyer le ballon au fond. On a même sur des coups de pied arrêtés, il y a les ballons qui traînent et tout. On n'a pas la rage. On doit arriver à pousser ces ballons-là. Donc, voilà, c'est une déception. Parce que sur le match, elles ont quasiment pas d'occasion. Elles marquent sur un coup de pied arrêté. Et ça, on se ressort avec un match nul alors qu'on a une maîtrise, pas tout le temps, mais dans nos bonnes périodes, on a une maîtrise du jeu. Et puis on a plus d'occasions, quoi. Donc, voilà.
Voilà, et du coup, toujours pas de victoire hein, pour les Rafettes dans ce championnat de première division de football féminin. Pas de victoire après 4 matchs, et ce match-là, en particulier face à Enem Beaumont, était important, hein, puisque c'est une autre équipe qui joue le maintien parmi l'élite. On espère que ça va aller mieux dans les prochaines semaines. Le coach était optimiste pour l'avenir des Rafettes dans ce championnat de football féminin.
Un petit peu de basket, mais pas n'importe quel basket. Le basket en fauteuil. Certains diront un basket de feignant où tu joues assis, mais je crois pas, non. Jennings, non.
Ou le handi fauteuil.
Voilà, c'est pour
voilà.
Ça. Ouais.
C'est ça, les deux. Le handi basket.
Le handi basket, ouais.
Handi basket, pardon. Ouais.
Ouais.
Oui, donc c'est un sport qui s'est créé au fur et à mesure. Déjà, il se jouait. Lors de la Seconde Guerre mondiale par les soldats américains et britanniques. Et dans un premier temps, c'était le netball, qui est maintenant l'ancêtre du basket. Donc ça s'est vraiment développé à partir de 1955, avec la création donc des premiers championnats et des premières équipes qui s'inscrivent. L'équipe de France, quant à elle... a gagné quand même 2 fois les compétitions là en 1900
en quelle année hein, les championnats du monde tu veux dire?
Oui voilà les championnats du monde oui donc en 1990 et en 1984 en Angleterre et puis à Bruges
c'était il y a quand même un peu longtemps et aujourd'hui on en est où?
Eh ben en 99 ils ont été champions d'Europe et en 2001 aussi pareil donc ben le championnat se déroule en quatre divisions. Donc la National A, National B et National C et National 2.
Et au niveau du jeu, comment ça se passe? Est-ce qu'on doit dribbler aussi? Parce que ça me paraît compliqué de dribbler en fauteuil.
Oui, mais justement aussi, si on peut quand même dribbler avec les fauteuils. Il y a, justement, au niveau des règles, c'est exactement pareil que au basket valide, si ce n'est quand même que le marché est un peu reformé. Oui, par rapport à l'handicap, voilà. Donc en fait, c'est le joueur doit pousser au maximum deux fois son fauteuil avant de faire la passe à son coéquipier. Et après, évidemment, il y a quand même des règles pour la sécurité des joueurs, comme la roulette qui sonne derrière les fauteuils qui permettent de ne pas basculer.
Oui, d'accord. Donc on peut cabrer en fait et se tourner beaucoup plus vite,
ah oui,
mais
voilà.
Ça empêche de basculer
et
à l'arrière.
Voilà. Et justement, il y a souvent quand même beaucoup de chocs et des accidents. Hein. Il y a quand même des joueurs qui se retournent, les fauteuils carrément par terre. La semaine dernière, tu disais, Rémi, que le foot-fauteuil, c'était quand même assez costaud.
Ouais.
Mais alors, ça n'a rien à voir au basket fauteuil.
Ah ouais, c'est encore plus...
Ah ouais, c'est vraiment incroyable, ouais. Mmh,
mmh.
Donc franchement, ouais, si vous avez l'occasion d'en voir...
Et est-ce que
je dirais que c'est vraiment plus costaud. Ouais.
Est-ce que ça se joue sur le même type de terrain? Est-ce qu'on baisse les paniers?
Non, c'est évidemment ils sont un peu plus bas, oui, mais sinon oui, ça se joue avec les paniers, exactement comme au basket valide. Ouais.
Par contre, Jennings, pour un amateur qui est passionné, par exemple pour le basket à fauteuil, l'investissement, parce que j'imagine que les fauteuils ils sont très performants, quoi, ils doivent coûter cher, non?
Étant donné que c'est des fauteuils manuels, c'est quand même beaucoup moins cher qu'un fauteuil électrique de foot-fauteuil, par exemple. Environ, on peut compter 10 000 euros pour un fauteuil de foot-fauteuil. Et 5 000 euros maxi pour les...
Ah,
ouais, allez, 5 000, 6 000 euros.
J'imagine qu'il faut un truc super léger...
Voilà,
mais quand même robuste, quoi.
Assez robuste, et puis à l'avant du fauteuil, il y a quand même un pare-choc en fer, ce qui permet, au niveau des chocs, parce qu'il y en a quand même très souvent, de rester quand même assez protégé. Quoi.
Est-ce que il y a un gros effectif de joueurs en France?
Alors, comme j'ai dit, il se développe bien, donc c'est quand même pas l'un des sports les plus pratiqués en France.
On le pratique en Midi-Pyrénées, ici
Oui, il y a Caussade.
Ouais.
C'est le seul club dans la région Midi-Pyrénées qui représente cette région. Après, bon, il y a Bordeaux aussi.
D'accord. Bon, on essaiera de suivre au fur et à mesure des lundis sports de semaine en semaine les résultats du handi basket de Caussade.
Ouais, en effet, ouais.
Ah ben voilà, c'est ta mission, Jennings.
Eh oui.
Manière. Bon, ça va démarrer bientôt.
Tous les jours, je dis que ça va commencer, et puis finalement, ça commence pas. Mais normalement, dès le week-end prochain, ça devrait commencer, les premiers matchs se dérouleront. Alors, pas dans toutes les divisions, mais dans certaines, oui.
Donc, tu nous donneras les résultats, et puis demain, tu vas être le correspondant à CFM à une conférence de presse importante pour le handisport qui va se dérouler à Montauban. Hein,
voilà, tous les sports seront représentés, et voilà, et ce sera... le dernier rodage, j'ai envie de dire, avant le début de toutes les compétitions.
D'accord. La suite, juste après un peu de musique, non de pub, c'est justement un coup de projecteur sur le rugby en fédéral.
CFM, CFM sur le Grand Rodez, 107.9. 107.9. CFM.
32 morts et près de 300 blessés en 2012. Ça vous parle ? Ce sont les chiffres de la sécurité routière en Tarn-et-Garonne. les comportements à risque des conducteurs tarnés-garonnais sont cause de tous ces drames. La vitesse, l'alcool, la drogue, le téléphone portable ou l'absence de ceinture de sécurité sont les facteurs aggravants. Pour vous, l'enjeu 2013 est simple. Essayez de ne pas mourir. Si on continue comme ça, ça ne va pas être facile. Sécurité routière. Tous responsables.
L'école Danse et Bien-être Patrice Zorzi à Montauban vous accueille désormais rue Bergère face au cinéma Le Paris. Danse contemporaine, claquettes, bar à terre, danse combat, danse zen avec des cours pour adultes et pour enfants. L'école Danse et Bien-être Patrice Zorzi, un espace où votre corps sera en harmonie avec votre esprit. Patrice Zorzi, professeur diplômé d'État, vous fera aussi bénéficier de son expérience de danseur professionnel pour votre plus grand plaisir. Danse et Bien-être Patrice Zorzi, vous serez conquis. Inscription du lundi au vendredi à partir de 17h. Renseignements sur internet. Tapez Danser Bien-être Patrice Zorzi.
Samedi 5 octobre, Coxibio, votre épicerie bio à Haussonne-Montauban, fête son anniversaire. À cette occasion, Coxibio vous réserve une surprise exceptionnelle. Moins 10% sur tout le magasin. Oui, moins 10% sur tout le magasin. Fruits, légumes, charcuterie, hygiène, santé, soins et au rayon cosmétique. Véronique, esthéticienne diplômée, vous donnera des conseils beauté personnalisés. Samedi 5 octobre, faites-le plein de nature avec les produits biologiques, animations et dégustations vous attendent. Coxibio, route nord à Haussonne-Montauban, ouvert non-stop du lundi au samedi de 9h30 à 19h.
CFM à Montauban. Montauban. 101.2. 101.2.
Allez, sans plus tarder, les résultats en fédéral 3, fédéral 2, fédéral 1, Jean-Claude Desfarge.
Ouais, ben écoute, en fédéral 1, c'est parti pour les fédérales. En fédéral 1, Rodez a tenu la dragée haute à Hendaye. Hendaye était le dernier du classement. Rodez est passé 23-21 après un match, on va dire, très moyen. Apparemment, ceux qui ont été au stade.
Ah oui, très moyen. Exceptionnel. Ouais, très moyen. Beaucoup de fautes, beaucoup de ballons perdus. Je peux te dire, j'étais dans les tribunes, puis après, ensuite, dans les vestiaires, c'était... Pourtant, la première victoire cette saison pour le SRA hein, dans cette poule de Fédéral 1, c'était ambiance de défaite, carrément, dans les vestiaires. Je vous propose d'écouter le demi de mêlée du stade ruthénois, Anthony Poujol.
Il n'y a qu'un truc à retenir, c'est la victoire, parce qu'après, il n'y a vraiment rien à retenir du match. On a été nuls, quoi. C'est tout. Quoi. Manque d'envie, sur nos touches, on n'a pas été bons encore une fois. Ben voilà quoi, mais si dans les fondamentaux on n'y est pas, dans le combat, on nous avait demandé du combat, on n'a pas répondu au combat. Eux nous ont donné une belle leçon de rugby, de combat, et voilà, c'est tout. Et il faut pas, c'est comme ça maintenant. Si on a plus d'envie, on l'a vu cet après-midi avec Oyonnax Toulon, voilà, c'est pareil. On n'est pas Toulon, mais on se devait de les respecter. On les a pas respectés, et ben voilà, on va tout se remettre en question et essayer d'aller faire un résultat à l'abord.
Voilà, on dirait qu'ils ont perdu, mais non, ils ont gagné samedi soir, les Ruthénois.
C'est l'esprit qu'on m'a laissé entendre. J'ai des amis qui sont allés le voir, ils m'ont dit on aurait su, on serait resté à la maison. Donc c'était un petit match. On peut aussi signaler aussi que Valence d'Agen s'est incliné à la dernière minute contre Mauléon, à l'extérieur, 16-15. Que Castanet a battu Oloron, que Oloron a battu Castanet à domicile, 23-26. Mais il y avait un gros match à Montauban, où Montauban recevait Lormont, je pense.
Ouais, c'était la quatrième journée, dans un stade copieusement garni. Donc, on recevait le promu de Fédéral 2, qui fait un bon début de saison, très correct à domicile, puisqu'ils ont notamment battu Rodez. L'USM, bon, ça on le sait, par rapport à samedi dernier, était dans un contexte de rachat. Il fallait un peu remettre les pendules à l'heure, Rémi, à domicile. Et le constat un petit peu, quand j'ai vu, quand on a entendu de la feuille de match, c'est vrai que Pemeja et Philippe Motte, qu'on entendra tout à l'heure, enfin juste après, ont remis les cadres, ont remis David Burns et ont remis Romain Loga comme capitaine en titulaire. Hein. Donc il a remis les cadres. Donc une première mi-temps, bon... Chacun son analyse. Moi, la mienne, un petit peu, c'est que on a eu un déficit en conquête. On a eu des ballons pas forcément très propres. On a eu déjà une équipe de Lormont très, elle joue avec la règle, quoi. Constamment, on les entendra aussi.
Le score à la mi-temps, il a dû faire flipper quelques...
Oui, tout à fait.
Verts et noirs. C'était combien à la mi-temps?
On est 8-6, surtout que juste avant, l'essai refusé. Et c'est là où, en plus, l'essai refusé... bon, après les suites, on les connaît pas, mais bon,
voilà. Il y en a un qui a pris un carton rouge. Alors, c'est qui prend un carton rouge?
Donc, c'est le capitaine Romain Loga, qui prend ce rouge. Et d'ailleurs, on va l'entendre par rapport à cette décision arbitrale.
C'est dur. Après, bon, faut voir ce qu'on me reproche exactement, parce que
Je déblaye l'ailier de Lormont, j'y retourne, j'insiste un peu. Après, j'ai l'impression que l'arbitre me siffle un coup de pied sur joueur au sol, alors que pas du tout. J'ai dû prendre un rouge dans ma carrière il y a 20 ans, parce que j'étais capitaine et qu'il y avait une générale. Là, je reprends un rouge 20 ans plus tard, pour un fait bon, que j'ai pas fait. Bon, on verra bien à la suite.
Romain, bon, en tant que capitaine, je suppose que cette seconde mi-temps te satisfait.
Ouais, mais la première aussi, parce qu'on a manqué un peu peut-être d'agressivité la semaine dernière contre une belle équipe de Limoges. Là, Lormont, bon, ils sont valeureux, il y a de la vaillance, ils s'accrochent, il n'y a rien à dire là-dessus, mais il y a faute. À toutes les phases de jeu, il y a faute. Et je crois que l'arbitre a mis une mi-temps à comprendre que nous, on voulait jouer au rugby et qu'il y a une équipe qui était pour courir le jeu, quoi. Sans du tout leur manquer de respect, et, parce qu'ils ont les qualités qui sont les leurs. Mais bon, je suis satisfait de la deuxième mi-temps et satisfait de la première, parce qu'il n'y a peut-être pas la deuxième sans la première. Voilà, je pense qu'on a été consistant, qu'on s'est engagé. Après, c'est compliqué quand l'adversaire fait faute tout le temps.
Voilà, donc juste pour dire que l'arbitre était polonais, j'ai rien contre les Polonais, c'était son premier match, apparemment c'était une décision entre la FFR et la Fédération de Pologne, donc on avait un novice à l'arbitrage. Franchement, la décision qu'il a prise, elle est vraiment... Enfin, moi je rejoins Romain, c'est vrai que bon, c'est Montalbane, bon, mais je le rejoins.
Elle a laissé l'équipe de l'USM donc, à 14, à 14, ouais, à 14 sur la deuxième mi-temps, ouais. Mais ça ne leur a pas empêché de monter jusqu'à...
29-6, le résultat final, ouais.
29-6
avec une seconde mi-temps où ils ont à aucun moment existé, et puis vraiment on a retrouvé une équipe de Montauban guerrière, vraiment, vraiment guerrière.
Et Pemeja, qu'est-ce qu'il en pense de
tout
ça?
Eh bien écoute, il avait le sourire, Xavier, on l'écoute.
Dans la douleur, mais c'est bien aussi. C'est bien, on voulait le bonus offensif, on l'a eu, c'est très bien. Eux voulaient faire un gros match, ils l'ont fait. Tout le monde est content, après on l'a fait à 14. C'est vrai que ce carton rouge vient de bonne heure. On doit marquer en début de match, on approche deux fois la ligne, on marque pas, ça aurait peut-être fait la bascule plus facile pour nous. Mais d'abord, je tire mon chapeau à Lormont, parce qu'ils ne sont pas venus pour nous regarder. Ils ont fait, ils ont joué avec leurs moyens, ils nous ont embrouillé, ils ont tout embrouillé. Ils ont gros combattants, c'est bien parce que comme ça on est prévenu pour le match retour.
Et ouais, et Rémi, moi je serais voulu, enfin je l'ai dit à David, mais même toi, c'est vrai que quand Lormont est rentré dans les vestiaires, on a l'impression qu'ils avaient gagné le match. Ils ont fait un match énorme, et d'ailleurs, j'ai rencontré l'entraîneur de Lormont qui avait le sourire aux lèvres et qui, je pense, était très satisfait.
On savait en venant à Montauban que ça allait être compliqué, c'est une équipe qui joue une montée en Pro D2. Nous, on vient de monter en Fédéral 1 cette année. Donc bon, on s'attendait à un gros match, mais les joueurs ont montré une vraie valeur, une vraie volonté de faire reculer cette équipe. Notre première mi-temps pour nous est très très satisfaisante, on finit à 8-6. Voilà, pour nous, cette mi-temps-là, on l'a gagné, même si sur le plan du score, on l'a pas gagné, on va dire. Mais après, bon, sur la continuité, sur la longueur du match, c'est très compliqué de tenir face à ces équipes-là, par rapport à la longueur de banc, la fatigue et l'intensité, quoi.
C'est sûr que face à la longueur de banc de Montauban, c'est vrai que Lormont a pas existé en seconde mi-temps. Est-ce que ça explique tout ça? J'en citerai rien. Enfin, pour moi, il y a d'autres éléments. Et moi, je voulais quand même saluer, voilà, la vaillance et l'esprit vraiment guerrier de Montauban à domicile. Et le dernier entraîneur, donc Philippe Motte, que j'ai et je lui ai expliqué un petit peu. Enfin, la température. Est-ce que Montauban a vraiment pris la température de la fédérale cette année dans cette poule?
Ça fait un moment qu'on n'a pas la température, ça fait 4 ans.
Oui,
là,
mais...
on est très très chaud pour la fédérale. Sinon, on est trop chaud et
oui.
Notre désir, c'est d'en sortir. Alors, on sait que tous les matchs vont être difficiles, on joue tous les matchs pour les gagner. On sait qu'il faut finir le plus haut possible dans le classement, de la poule d'abord et national ensuite. Parce que de recevoir en phase finale à la maison jusqu'en demi-finale, c'est prépondérant. On l'a vu l'année dernière à Côte-Bourgouin. Donc, notre objectif, c'est ça. Et on sait que tous les matchs vont être difficiles à gagner et à maîtriser, et on va s'attacher à ça.
Voilà, prochaine rencontre pour l'USM.
Dans 15 jours, Andaya.
Ok, la suite de la fédérale, Jean-Claude.
Dans la poule, gare à Langon, hein, parce que Langon était faire un gros résultat à Limoges. Limoges qui avait maltraité le Montalbanais, et donc moi je pense que le favori de cette poule, c'est plus seulement que Montauban, il y a aussi Langon.
On enchaîne parce que il est déjà 18h22 minutes et qu'après il va falloir qu'on passe un coup de fil à la Ruée des Fadas, cette course un peu nimp qui va se jouer à Montpellier en juin. Donc est-ce qu'il y a des résultats en fédéral 3 et 2 ou pas? Allô, Jean-Claude?
Ouais. Non, tu dis il y a des résultats, mais si t'es pressé, tu peux passer directement à ton sujet.
Donne-nous quand même un ou deux résultats en fédéral 3, fédéral 2, rien de très marquant.
Mazamé a battu Millau 22-16. Le Racing a, le match intéressé du Racing Club de Montauban a été arrêté à Libourne. Il va être à rejouer avec le score sur lequel il s'est arrêté à cause de l'orage, 19-13. Castel a fait match nul contre Bergerac, 15-15. Et De Casseville, derby Figeac de Casseville, 27-21 pour De Casseville. Le derby du Tarn, Gaillac-Groyer a vu la victoire de ceux qui reçoivent, c'est-à-dire Groyer. Après, en trois, fédéral 3, Nègrepelisse, brillant vainqueur du premier de la poule, Miel-en-Mirande, et Nègrepelisse a gagné 25-22.
Ah bah voilà. Rien de plus pour le rugby. Adjugé vendu.
Acteurs locaux, chefs d'entreprise, responsables politiques ou associatifs, CFM, le MAG, tous les jours, 17h-17h30. La vie du Tarn-et-Garonne.
Quand j'ai vu ce mail tomber dans ma boîte aujourd'hui, j'ai de suite pensé à David Fabier, qu'on appelle le Fada sur CFM Radio dans son émission de sport chaque lundi à CFM Rodez, parce que la course dont on va parler maintenant s'appelle la course des Fadas. Et il s'agit, pour avoir vu la vidéo, d'une course de Fada, hein, comme son nom l'indique. On est déguisé, on doit faire 12 km dans la boue, en rampant, en franchissant des bottes de paille et surtout en continuant d'avoir le sourire aux lèvres, voire le rire perpétuel. Ça s'appelle la course des Fadas et c'est Jeff qui nous la présente. Bonjour Jeff.
Bonjour. Écoute, tu as assez bien résumé la chose. Je peux ajouter que nous, on a appelé ça la ruée des Fadas. Ben, pourquoi ? Parce que l'événement devrait accueillir aux alentours des 4000 personnes, donc ça nous crée vraiment une espèce de ruée de monde qui se précipite pour essayer de passer cette ligne d'arrivée. Alors, en effet, on a mis l'accent sur le sport parce qu'on aime beaucoup le sport et les valeurs qu'il véhicule, mais aussi sur le fait que les gens aiment s'amuser, et donc on a essayé de les faire se déguiser, être en équipe s'ils ont envie de trouver un thème d'équipe. Et puis, on met en avant les valeurs de la solidarité, de l'entraide, mais c'est avant tout, évidemment, un délire et se faire plaisir pour tout le monde.
Mais c'est depuis quand vous faites ça, cette ruée des Fadas ?
Eh bien, écoute, ce sera la première édition. Simplement, on est tombé sur ça à l'étranger et puis dans le nord de la France. Et on l'a simplement personnalisé, on va dire, avec l'esprit Fada du Sud, comme tu disais, qui nous anime. C'est-à-dire de recevoir les gens avec convivialité et faire en sorte qu'ils passent un moment inoubliable, on va dire.
D'accord. Alors la vidéo qu'on voit, c'est pas l'édition de l'année dernière, c'est une édition qui a eu lieu ailleurs en France.
Alors pour tout te dire, on l'a testé nous-mêmes, c'est-à-dire que l'équipe a fait une course comme ça et les images viennent simplement de notre équipe qui a été filmée. Et puis on s'est rendu compte tout de suite que le concept était vraiment vraiment sympa et donc on s'est dit pourquoi pas chez nous, hein, tout simplement. Hein.
David Fabier, notre Fada à nous, tu te sentirais toi aller faire monter une équipe pour faire cette course-là ?
À faire une team CFM, pourquoi pas ? Moi après je me sentirais bien donner le départ si tu veux du truc, mais alors courir 12 km, tu connais le bonhomme, moi au bout de 5 mètres je suis mort, je te le dis de suite. Hein. Mais sinon après le délire, non, c'est un très très bon délire, je pense qu'il y a vraiment matière à s'amuser. Ouais, moi je serais prêt à monter une équipe, pourquoi pas ? Je te ferai pas 12 km, c'est sûr. Et à la limite de lire le départ, pourquoi pas, ça me ferait délirer. Ouais. Franchement, ça me ferait bien délirer. Et ça serait marrant de faire une équipe. Mais moi, avec mes copains de Sport on the Rock, pourquoi pas, hein, d'essayer de les motiver. Là, on est bien barjots et pourquoi pas.
Ouais, c'est sûr qu'il faut.
Oui, excuse-moi, je te coupe. Mais je suis comme David. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un grand sportif, si tu veux. Je suis plus sur des événements, mais on va dire plus courts. Et c'était intéressant de le faire parce qu'on s'est quand même rendu compte que, mis à part en effet les sportifs qui vont essayer de faire un chrono, qui vont partir au début, la plupart des gens, c'est quand même des gens qui vont à leur rythme, qui ont possibilité de faire des petites pauses, on va dire, de marcher un petit peu s'ils n'ont pas envie de courir à certains moments. Et donc même les gens qui sont entre guillemets comme moi un peu sportifs du dimanche, ils trouvent quand même leur compte et ils arrivent à passer la ligne d'arrivée. Bon, certes, en 3h15, alors que le sportif mettra 1h10, 1h30. Mais voilà, ça permet aussi à ceux qui ne sont pas des grands sportifs de s'amuser et de pouvoir le faire aussi. Hein, c'est quand même le but.
Jeff, les inscriptions sont ouvertes pour la ruée des Fadas c'est quoi, 8 juin, hein, c'est ça, hein, à Montpellier ?
Alors c'est ça. Alors ça va être en fait près de Montpellier parce que le lieu, on attend vraiment la signature définitive du contrat. Mais ça devrait être aux alentours de Montpellier. On a choisi un lieu qui est avec de l'eau, puisqu'évidemment il y a des passages dans l'eau pour se rafraîchir. On a trouvé un lieu assez sympa, puis des gens apparemment ont envie de jouer à la carte Fada, c'est-à-dire de décorer la ville pour qu'elle joue aussi le rôle de ville fada pendant 2 jours. On a ouvert les inscriptions dès maintenant, alors ça fait un peu tôt puisqu'on est au mois de juin, mais vu qu'on attend beaucoup de monde et que ça se remplit déjà assez vite, on aura peut-être la possibilité d'ouvrir un jour numéro 2 le lendemain, donc ça, on le souhaite évidemment. Donc,
et alors comment on s'inscrit, dis-moi?
Alors, tu as 2 possibilités qui sont soit par notre Facebook, soit par le site internet ruedefada.fr, tout se tient. Et il y a une promotion qui court jusqu'à fin octobre et qui permet d'avoir 30% de remise, ce qui inclut en fait une assurance qui fait que si les gens avaient un désistement, ils seraient remboursés à 100% par la suite.
Ah ben voilà. Et ça coûte combien de s'inscrire à la Ruedefada?
Alors, la rue des Fadas coûte 45€, donc moins de 30% jusqu'à fin octobre, en sachant que on va essayer aussi de reverser une partie des bénéfices à des associations caritatives du coin, notamment dans le sport, pour essayer pour les enfants notamment qui puissent bouger et puis essayer d'avoir des événements sportifs à leur portée aussi. Donc on est en train d'étudier tout ça en parallèle.
Ok Jeff, merci, bravo pour cette idée originale, la rue des Fadas. J'espère que vous irez loin, qu'on entendra parler longtemps. Merci à vous, salut.
Merci à vous de m'avoir reçu et puis au plaisir.
Ciao.
Acteurs locaux, chefs d'entreprise, responsables politiques ou associatifs. CFM, 17h30, 19h, à qui le tour? La vie des pays.
L'info en plus et l'agenda en 45 secondes, top départ.
L'info en plus, qui a dit dans la presse allemande, mais c'est pas un indice, celui qui m'achète achète une Ferrari, et dans la même déclaration a dit je pèse 100 kilos et après 5 ou 5 courses... Je me fatigue, je pèse 100 kilos. Après 4 ou 5 courses, je me fatigue. Qui a dit ça? Joueur de football, indice. Normalement, Jennings doit savoir. Deuxième indice.
Ribéry?
Non. Troisième indice, on en a parlé en début d'émission, parce qu'il a fait un mauvais geste face à
Toulouse. Vite, Jennings. J'aurais pensé Mario Balotelli.
Non, c'est Zlatan Ibrahimovic qui a déclaré ça en fait à la presse allemande en faisant référence au fait qu'il avait été écarté du UFC Barcelone à cause de Messi. Voilà, pour Ibrahimovic, tous les jours il en place une.
Il fait 100 kilos Ibrahimovic.
Comment?
Il fait 100 kilos?
Bah c'est ce qu'il dit. Bah il est grand, hein. Il est costaud, il est grand, il doit pas être loin des 100 kilos. Moi aussi j'étais surpris.
1m98, hein.
Ah d'accord, et oui forcément. Bon, très très rapidement l'agenda.
Alors un petit agenda vite fait, Ligue des Champions. Ben, dès mardi, l'Olympique de Marseille se déplace au Borussia Dortmund pour essayer de chercher un résultat là-bas en Allemagne. Le mercredi soir, le Paris Saint-Germain recevra la communauté portugaise de Benfica. Je pense qu'il risque d'y avoir même plus de supporters de Benfica que du PSG dans le stade. On va voir, parce que grosse communauté portugaise là-bas du côté de Paris. Jeudi, Lyon recevra Guimarães, un autre club portugais, et Bordeaux le même jour recevra le Maccabi Tel Aviv. Un petit mot juste voilà pour la prochaine journée de Ligue 1, c'est le Classico, c'est OM Paris, et ben, j'essaie de vous ramener quelques sons de mon périple marseillais du week-end prochain.
Bah d'accord, merci à tous d'avoir été présents pour cette nouvelle édition de lundi sport, et à lundi prochain.
Ciao, ciao.
Ciao.
Salut à tous.